Écoutez les pensées de mon enfance, quand je me réveillais, humain, à la verge rouge. Je viens de me réveiller, mais ma pensée est encore engourdie. Chaque matin, je ressens un poids dans la tête. Il est rare que je trouve le repos dans la nuit, car des rêves affreux me tourmentent quand je parviens à m'endormir. Le jour, ma pensée se fatigue dans des méditations bizarres, pendant que mes yeux errent au hasard dans l'espace. Et la nuit, je ne peux pas dormir. Mais quand faut-il alors que je dorme? Cependant, la nature a besoin de réclamer ses droits. Comme je la dédaigne, elle rend ma figure pâle et fait luire mes yeux avec la flamme aigre de la fièvre. Bref, je ne demanderai pas mieux que de ne pas épuiser mon esprit à réfléchir continuellement. Mais quand même je ne le voudrais pas, mes sentiments consternés m'entraînent invinciblement vers cette pente. Je me suis aperçu que les autres enfants sont comme moi, mais ils sont plus pâles encore et leurs sourcils sont froncés, comme ceux des hommes, nos frères aînés. Ô Créateur de l'univers, je ne manquerai pas ce matin de t'offrir l'encens de ma prière enfantine. Bon, quelquefois je l'oublie, et j'ai remarqué que ces jours-là, je me sens plus heureux qu'à l'ordinaire. Ma poitrine s'épanouit, libre de toute contrainte, et je respire, plus à l'aise, l'air embaumé des champs. Tandis que lorsque j'accomplis le pénible devoir, ordonné par mes parents, de t'adresser quotidiennement un cantique de louange, accompagné de l'ennui inséparable que me cause la borieuse invention, alors je suis triste et irrité le reste de la journée parce qu'il ne me semble pas logique et naturel de dire ce que je ne pense pas, et je recherche le recul des immenses solitudes. Si je leur demande l'explication de cet état étrange de mon âme, elles ne me répondent pas. Je voudrais t'aimer et t'adorer, mais tu es trop puissant, et il y a de la crainte dans mes hymnes. Si par une seule manifestation de ta pensée, tu peux détruire ou créer des mondes, mes faibles prières ne te seront pas utiles. Si, quand il te plaît, tu envoies le choléra ravager les cités ou la mort emporte dans ses serres sans aucune distinction les quatre âges de la vie, je ne veux pas me lier avec un ami si redoutable. Non pas que la haine conduise le fil de mes raisonnements, mais j'ai peur, au contraire, de ta propre haine, qui par un ordre capricieux peut sortir de ton cœur et devenir immense, comme l'envergure du condor des Andes. Tes amusements équivoques ne sont pas à ma portée, et j'en serai probablement la première victime. Tu es le Tout-Puissant, je ne le conteste pas, ce titre, puisque toi seul as le droit de le porter, et que tes désirs, aux conséquences funestes ou heureuses, n'ont de terme que toi-même. Voilà pourquoi, précisément, il me serait douloureux de marcher à côté de ta cruelle tunique de saphir, non pas comme ton esclave, mais pouvant l'être d'un moment à l'autre. Il est vrai que lorsque tu descends en toi-même pour scruter ta conduite souveraine, si le fantôme d'une injustice passée commise envers cette malheureuse humanité qui t'a toujours obéi comme ton ami le plus fidèle dresse devant toi les vertèbres immobiles d'une épine dorsale vengeresse, ton œil hagard laisse tomber la lampe épouvantée du remords tardif, et qu'alors, les cheveux hérissés, tu crois toi-même prendre sincèrement la résolution de suspendre à jamais aux broussailles du néant les jeux inconcevables de ton imagination de tigre, qui serait burlesque si elle n'était pas lamentable. Mais je sais aussi que la constance n'a pas fixé dans tes os comme une moelle tenace le harpon de sa demeure éternelle, et que tu retombes assez souvent, toi et tes pensées, recouvert de la lèpre noire de l'erreur, dans le lac funèbre des sombres malédictions. Je veux croire que celles-ci sont inconscientes, quoique n'en manifestent pas moins leur venin fatal, et que le mal et le bien, unis ensemble, se répandent en bons impétueux de ta royale patrie, poitrine gangrenée, comme le torrent du rocher, par le charme secret d'une force aveugle, mais rien ne m'en fournit la preuve. J'ai vu trop souvent tes dents immondes claquer de rage, et ton auguste face, recouverte de la mousse des temps, rougir comme un charbon ardent à cause de quelques futilités microscopiques que les hommes avaient commises pour pouvoir m'arrêter plus longtemps devant le poteau indicateur de cette hypothèse bonasse. Chaque jour, les mains jointes, j'élèverai vers toi les accents de mon humble prière, puisqu'il le faut. Mais je t'en supplie, que la Providence ne pense pas à moi. Laisse-moi de côté, comme le vermisseau qui rampe sous la terre. Sache que je préférerais me nourrir avidement des plantes marines d'îles inconnues et sauvages que les vagues tropicales entraînent au milieu de ces parages, dans leur sein écumeux, que de savoir que tu m'observes et que tu portes dans ma conscience ton scalpel qui ricane. Elle vient de te révéler la totalité de mes pensées, et j'espère que ta prudence applaudira facilement au bon sens dont elle garde l'ineffaçable empreinte. À part ces réserves faites sur le genre de relation plus ou moins intime que je dois garder avec toi, ma bouche est prête à n'importe quelle heure du jour à exhaler, comme un souffle artificiel, le flot de mensonges que ta gloriole exige sévèrement de chaque humain, dès que l'aurore s'élève bleuâtre, cherchant la lumière dans les replis de satin du crépuscule, comme moi je recherche la bonté, excité par l'amour du bien. Mes années ne sont pas nombreuses, et cependant, je sens déjà que la bonté n'est qu'un assemblage de syllabes sonores. Je ne les trouvais nulle part. Tu laisses trop percer ton caractère. Il faudrait le cacher avec plus d'adresse. Au reste, peut-être que je me trompe et que tu le fais exprès, car tu sais mieux qu'un autre comment tu dois te conduire. Les hommes, eux, mettent leur gloire à intimité. C'est pourquoi la bonté sainte ne reconnaît pas son lapernacle dans leurs yeux farouches. Tel père, tel fils, quoi qu'on doive penser de ton intelligence, je n'en parle que comme un critique impartial. Oh, je ne demande pas mieux que d'avoir été induit en erreur. Je ne désire pas te montrer la haine que je te porte et que je couve avec amour comme une fille chérie, car il vaut mieux la cacher à tes yeux et prendre seulement devant toi l'aspect d'un censeur sévère, chargé de contrôler tes actes impurs. Tu cesseras ainsi tout commerce actif avec elle. Tu l'oublieras et tu détruiras complètement cette punaise avide qui ronge ton foie. Je préfère plutôt te faire entendre des paroles de rêverie et de douceur. Oui, c'est toi qui as créé le monde et tout ce qu'il renferme. Tu es parfait. Aucune vertu ne te manque. Tu es très puissant, chacun le sait. Que l'univers entier entonne à chaque heure du temps ton cantique éternel. Des oiseaux te bénissent en prenant leur essor dans la campagne. Des étoiles t'appartiennent, ainsi soit-il. Après ces commencements, étonnez-vous de me trouver tel que je suis. Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les coins de la terre. Ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait quelqu'un qui approuvât mon caractère. Il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence. Et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme, dont la présence engendrait des fleurs sur son passage. Il s'approcha de moi et me tendant la main, « Je suis venu vers toi, toi qui me cherches. Bénissons ce jour heureux. Mais moi, va-t'en, je t'ai pas appelé, j'ai pas besoin de ton amitié. » C'était le soir, la nuit commençait à étendre la noirceur de son voile sur la nature. Une belle femme, que je ne faisais que distinguer, étendait aussi sur moi son influence enchanteresse et me regardait avec compassion. Cependant, elle n'osait me parler. Je dis « Approche-toi de moi, afin que je distingue nettement les traits de ton visage, car la lumière des étoiles n'est pas assez forte pour les éclairer à cette distance. » Alors, avec une démarche modeste et les yeux baissés, elle foula l'herbe du gazon en se dirigeant de mon côté. Dès que je la vis, « Ah, je vois que la bonté et la justice ont fait résidence dans ton cœur. Nous ne pourrions pas vivre ensemble. Maintenant, tu admires ma beauté qui a bouleversé plus d'une. Mais tôt ou tard, tu te repentirais de m'avoir consacré ton amour, car tu ne me connais pas mon âme. Oh non, que je te sois jamais infidèle. Celle qui se livre à moi avec tant d'abandon et de confiance, avec autant de confiance et d'abandon, je me livre à elle. Mais mets-le dans ta tête pour ne jamais l'oublier. Les loups et les agneaux ne se regardent pas avec des yeux doux. Que me fallait-il donc à moi qui rejetais avec tant de dégoût ce qu'il y avait de plus beau dans l'humanité? Ce qu'il me fallait, je n'aurais pas su le dire. Je n'étais pas encore habitué à me rendre un compte rigoureux des phénomènes de mon esprit au moyen des méthodes que recommande la philosophie. Je m'assis sur un roc près de la mer. Un navire venait de mettre toute voile pour s'éloigner de ce parage. Un point imperceptible venait de paraître à l'horizon et s'approchait peu à peu, poussé par la rafale, en grandissant avec rapidité. La tempête allait commencer ses attaques, et déjà le ciel s'obscurcissait en devenant d'un noir presque aussi hideux que le cœur de l'homme. Le navire, qui était un grand vaisseau de guerre, venait de jeter toutes ses ancres pour ne pas être balayé sur les rochers de la côte. Le vent sifflait avec fureur des quatre points cardinaux et mettait les voiles en charpie. Les coups de tonnerre éclataient au milieu des éclairs et ne pouvaient surpasser le bruit des lamentations qui s'entendaient de la maison sans basse, sépulcre mouvant. Le roulis de ces masses aqueuses n'était pas parvenu à rompre les chaînes des ancres, mais leur secousse avait entrouvert une voie d'eau sur les flancs du navire. Brèche énorme, car les pompes ne suffisent pas à rejeter les paquets d'eau salée qui viennent en écumant s'abattre sur le pont comme des montagnes. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Celui qui n'a pas vu un vaisseau sombrer au milieu de l'ouragan, de l'intermittence des éclairs et de l'obscurité la plus profonde, pendant que ceux qu'il contient sont accablés de ce désespoir que vous savez, celui-là ne connaît pas les accidents de la vie. Enfin, il s'échappe un cri universel de douleur immense d'entre les flancs du vaisseau, tandis que la mer redouble ses attaques redoutables. C'est le cri qu'a fait pousser l'abandon des forces humaines. Chacun s'enveloppe dans le manteau de la résignation et remet son sort entre les mains de Dieu. On s'accule comme un troupeau de moutons. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Ils ont fait jouer les pompes pendant tout le jour, efforts inutiles. La nuit est venue, épaisse, implacable, pour mettre le comble à ce spectacle gracieux. Chacun se dit qu'une fois dans l'eau, il ne pourra plus respirer. car d'aussi loin qu'il fait revenir sa mémoire, il ne se reconnaît aucun poisson pour ancêtre. Mais il s'exhorte à retenir son souffle le plus longtemps possible, afin de prolonger sa vie de 2 ou 3 secondes. C'est là l'ironie vengeresse qu'il veut adresser à la mort. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Il ne sait pas que le vaisseau, en s'enfonçant, occasionne une puissante circonvolution des houles autour d'elle-même, que le limon bourbeux s'est mêlé aux eaux troublées, et qu'une force qui vient de dessous, contre-coup de la tempête qui exerce ses ravages en haut, imprime à l'élément des mouvements saccadés et nerveux. Ainsi, malgré la provision de sang-froid qu'il ramasse d'avance, le futur noyé, après réflexion plus ample, devra se sentir heureux s'il prolonge sa vie dans les tourbillons de l'abîme de la moitié d'une respiration ordinaire, afin de faire bonne mesure. Il lui sera donc impossible de narguer la mort avant son suprême vœu. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Oh, c'est une erreur. Il ne tire plus des coups de canon. Il ne sombre pas. La coquille de noix s'est engouffrée complètement. Ô ciel, comment peut-on vivre après avoir éprouvé tant de volupté? Il venait de m'être donné d'être témoin des agonies de mort de plusieurs de mes semblables. Minute par minute, je suivais les péripéties de leurs angoisses. Tantôt le beuglement de quelques vieilles devenues folles de peur faisait prime sur le marché. Tantôt le seul glapissement d'un enfant en mamelle empêchait d'entendre le commandement des manœuvres. Le vaisseau était trop loin pour percevoir distinctement les gémissements que m'apportait la rafale. Mais je le rapprochais par ma volonté et l'illusion d'optique était complète. Chaque quart d'heure, quand un coup de vent plus fort que les autres, rendant ses accents lugubres à travers le cri des pétrelle effarée, disloquait le navire dans un craquement longitudinal et augmentait les plaintes de ce qui allait être offert en holocauste à la mort, je m'enfonçais dans la joue la pointe aiguë d'un fer et je pensais secrètement oh, « ils souffrent davantage, eux ». J'avais au moins ainsi un terme de comparaison. Du rivage, je les apostrophais en leur lançant des imprécations et des menaces. Il me semblait qu'ils devaient m'entendre. Il me semblait que ma haine et mes paroles, franchissant la distance, anéantissaient les lois physiques du son et parvenaient distinctes à leurs oreilles, assourdies par les mugissements de l'océan courroux. Il me semblait qu'ils devaient penser à moi et exhaler leur vengeance en impuissante rage. De temps en temps, je jetais les yeux vers les cités, endormies sur la terre ferme. Et, voyant que personne ne se doutait qu'un vaisseau allait sombrer à quelques milles du rivage, avec une couronne d'oiseaux de proie et un piédestal de géants aquatiques, au ventre vide, je reprenais courage et l'espérance me revenait. J'étais donc sûr de leur perte. Ils ne pouvaient échapper. Par surcroît de précaution, j'avais été chercher mon fusil à 2 coups, afin que, si quelque naufragé était tenté d'aborder les rochers à la nage, pour échapper à une mort imminente, une balle sur l'épaule lui fracassa le bras et l'empêcha d'accomplir son dessein. Au moment le plus furieux de la tempête, je vis, surnageant sur les eaux avec des efforts désespérés, une tête énergique aux cheveux hérissés. Il avalait des litres d'eau et s'enfonçait dans l'abîme, ballotté comme un liège. Mais bientôt, il apparaissait de nouveau, les cheveux ruisselants. et, fixant l'œil sur le rivage, il semblait défier la mort. Oh, il était admirable de sang-froid. Une large blessure sanglante, occasionnée par quelques pointes d'écueil cachées, balafrait son visage intrépide et noble. Il ne devait pas avoir plus de 16 ans, car à peine, à travers les éclairs qui illuminaient la nuit, le duvet de la pêche s'apercevait sur sa lèvre. Et maintenant, il n'était plus qu'à 200 mètres de la falaise, et je le dévisageais facilement. Quel courage! Quel esprit indomptable! Comme la fixité de sa tête semblait narguer le destin, tout en fendant avec vigueur l'onde dont les sillons s'ouvraient difficilement devant lui. Je l'avais décidé d'avance. Je me devais à moi-même de tenir ma promesse. L'heure dernière avait sonné pour tous. Aucun ne devait en échapper. Voilà ma résolution. Rien ne la changerait. Un son sec s'entendit, et la tête aussitôt s'enfonça pour ne plus reparaître. Je ne pris pas à ce meurtre autant de plaisir qu'on pourrait le croire. Et c'était précisément parce que j'étais rassasié de toujours tuer que je faisais dorénavant par simple habitude, dont on ne peut se passer, mais qui ne procure qu'une jouissance légère. Le sens est émoussé, endurci. Quelle volupté ressentir à la mort de cet être humain quand il en avait plus d'une centaine qui allait s'offrir à moi en spectacle dans leur lutte dernière contre les flots, une fois le navire submergé. À cette mort, je n'avais même pas l'attrait du danger, car la justice humaine, bercée par l'ouragan de cette nuit affreuse, sommeillait dans les maisons à quelques pas de moi. Et aujourd'hui que les années pèsent sur mon corps, je le dis avec sincérité, comme une vérité suprême et solennelle, je n'étais pas aussi cruel qu'on l'a raconté ensuite parmi les hommes. Mais des fois, leur méchanceté exerçait ses ravages persévérants pendant des années entières. Alors je ne connaissais plus de borne à ma fureur. Il me prenait des accès de cruauté, et je devenais terrible pour celui qui s'approchait de mes yeux hagards, si toutefois il appartenait à ma race. Oh, si c'était un cheval ou un chien, je le laissais passer. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Malheureusement, la nuit de cette tempête, j'étais dans un de ces accès. Ma raison s'était envolée. Car ordinairement, j'étais aussi cruel, mais plus prudent. Et tout ce qui tomberait cette fois-là entre mes mains devait périr. Oh, je ne prétends pas m'excuser de mes torts. La faute n'en est pas toute à mes semblables. Je ne fais que constater ce qui est, en attendant le jugement dernier qui me fait gratter la nuque d'avance. Peu que m'importe le jugement dernier. Ma raison ne s'envole jamais, comme je le disais pour vous tromper. Et quand je commets un crime, je sais ce que je fais. Je ne voulais pas faire autre chose. Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête s'acharnant sur un navire sous un ciel sans étoiles. Je suivis dans une attitude triomphante toutes les péripéties de ce drame depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres jusqu'au moment où il s'engloutit, avis fatal qu'il entraîna dans les boyaux de la mer, ce qui s'en était revêtu comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait où j'allais moi-même me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Quand la place où le vaisseau avait soutenu le combat montra clairement que celui-ci avait dû passer le reste de ses jours au rez-de-chaussée de la mer, alors ceux qui avaient été emportés avec les flots reparurent en partie à la surface. Ils se prirent à bras-le-corps, deux par deux, trois par trois. C'était le moyen de ne pas sauver leur vie. car leurs mouvements devenaient embarrassés et ils coulaient bas, comme des cruches percées. Quelle est cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse? Ils sont six. Leurs nageoires sont vigoureuses et s'ouvrent un passage à travers les vagues soulevées. De tous ces êtres humains qui remuent les quatre membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu'une omelette sans œufs, et cela partage d'après la loi du plus fort. Le sang se mêle aux os et les os se mêlent au sang. Leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage. Mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas à l'horizon? On dirait une trombe qui s'approche. Quel coup de rame! J'aperçois ce que c'est. Une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard et manger du bouilli froid. Elle est furieuse car elle arrive affamée. Une lutte s'engage entre elle et le requin pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci par-là sans rien dire sur la surface de la crème rouge. À droite, à gauche, elle lance des coups de dents qui engendrent des blessures mortelles. Mais trois requins vivants l'entourent encore et elle est obligée de tourner en tous sens pour déjouer leurs manœuvres. Avec une émotion croissante, inconnue jusqu'alors, le spectateur, placé sur le rivage, suit cette bataille navale d'un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin, aux dents si fortes. Oh, il n'hésite plus, il épaule son fusil, et avec son adresse habituelle, il loge sa deuxième balle dans l'ouïe d'un des requins au moment où il se montrait au-dessus d'une vague. Restent deux requins qui n'en témoignent qu'un acharnement plus grand. Du haut du rocher, l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau d'acier qui ne l'abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s'avance vers son adversaire fatigué et pendant son temps lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire. Se trouvent en présence le nageur et la femelle de requin sauvée par lui. Ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes. Et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdant pas de vue et se disant de par soi « Ben, je me suis trompé jusqu'ici. En voilà un qui est plus méchant encore. » Alors, d'un commun accord entre deux eaux, ils glissèrent l'un vers l'autre avec une admiration mutuelle, la femelle de requin écartant l'eau de ses nageoires, Maldoror battant l'onde avec ses bras, et retardent leur souffle dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler pour la première fois son portrait vivant. Arrivés à 3 mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre comme deux aimants, et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur. Les désirs charnels suivirent de près cette démonstration d'amitié. Deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre comme deux sangsues, et les bras, les nageoires entrelacées autour du corps de l'objet aimé qu'ils entouraient avec amour, tandis que leur gorge et leur poitrine ne faisaient bientôt plus qu'une masse glauque aux exhalaisons de Goémon. Au milieu de la tempête qui continuait de sévir, à la lueur des éclairs ayant pour lit d'Hyménée la vague écumeuse, emportée par un courant sous-marin comme dans un berceau et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs inconnues de l'abîme, ils se réunirent dans un accouplement long, chaste et hideux. Enfin, je venais de trouver quelqu'un qui me ressembla. Désormais, je n'étais plus seul dans le monde en vie. Elle avait les mêmes idées que moi. J'étais en face de mon premier amour. La scène entraîne un corps humain. Dans ces circonstances, elle prend des allures solennelles. Le cadavre gonflé se soutient sur les eaux. Il disparaît sous l'arche d'un pont, mais plus loin, on le voit apparaître de nouveau, tournant lentement sur lui-même comme une roue de moulin et s'enfonçant par intervalles. Un maître de bateau, à l'aide d'une perche, l'accroche au passage et le ramène à terre. Avant de transporter le corps à la morgue, on le laisse quelque temps sur la berge pour le ramener à la vie. La foule compacte se rassemble autour du corps. Ceux qui ne peuvent pas voir parce qu'ils sont derrière poussent tant qu'ils peuvent ceux qui sont devant. Chacun se dit « Oh, c'est pas moi qui me serais noyé !» On plaint le jeune homme qui s'est suicidé. On l'admire, mais on ne l'imite pas. Et cependant, lui a trouvé très naturel de se donner la mort, ne jugeant rien sur la terre capable de le contenter et aspirant plus haut. Sa figure est distinguée et ses habits sont riches. A-t-il encore 17 ans? C'est mourir jeune. La foule paralysée continue de jeter sur lui ses yeux immobiles. Il se fait nuit, chacun se retire silencieusement. Aucun n'ose renverser le noyer pour lui faire rejeter l'eau qui remplit son corps. On a craint de passer pour sensible, et aucun n'a bougé, retranché dans le col de sa chemise. L'un s'en va en sifflotant aigrement une tyrolienne absurde, l'autre fait claquer ses doigts comme des castagnettes. Harcelé par sa pensée sombre, Maldoror, sur son cheval, passe près de cet endroit avec la vitesse de l'éclair. Il aperçoit le noyé, cela suffit. Aussitôt, il a arrêté son coursier et est descendu de l'étrier. Il soulève le jeune homme sans dégoût et lui fait rejeter l'eau avec abondance. À la pensée que ce corps inerte pourrait revivre sous sa main, il sent son cœur bondir sous cette impression excellente et redouble de courage. Vains efforts, ai-je dit, et c'est vrai. Le cadavre reste inerte et se laisse tourner en tous sens. Il frotte les tempes, il frictionne ce membre-ci, ce membre-là. Il souffle pendant une heure dans la bouche en pressant ses lèvres contre les lèvres de l'inconnu. Il lui semble enfin sentir sous sa main, appliquée contre la poitrine, un léger battement. Le noyé vit. À ce moment suprême, on put remarquer que plusieurs rides disparurent du front du cavalier et le rajeunirent de 10 ans. Mais hélas, les rides reviendront peut-être demain, peut-être aussitôt qu'il se sera éloigné des bords de la Seine. En attendant, le noyé ouvre des yeux ternes et par un sourire blafard remercie son bienfaiteur. Mais il est faible encore et ne peut faire aucun mouvement. Sauver la vie à quelqu'un, que c'est beau! Et comme cette action rachète de fautes, l'homme aux lèvres de bronze, occupé jusqu'à là à arracher de la mort, regarde le jeune homme avec plus d'attention et ses traits ne lui paraissent pas inconnus. Il se dit qu'entre l'asphyxié aux cheveux blonds et Holzer, il n'y a pas beaucoup de différence. Les voyez-vous comme ils s'embrassent avec effusion? N'importe. L'homme à la prunelle de jaspe tient à conserver l'apparence d'un rôle sévère. Sans rien dire, il prend son ami qu'il met en croupe et le coursier s'éloigne au galop. Oh, toi, Holzer, qui te croyais si raisonnable et si fort, N'as-tu pas vu, par ton exemple même, comme il est difficile, dans un accès de désespoir, de conserver le sang-froid dont tu te vantes? J'espère que tu ne me causeras pas un pareil chagrin. Et moi, de mon côté, je t'ai promis de ne jamais attenter à ma vie. Il y a des heures dans la vie où l'homme, à la chevelure pouilleuse, jette l'œil fixe, des regards fauves sur les membranes vertes de l'espace. Car il lui semble entendre devant lui les ironiques huées d'un fantôme. Il chancelle et courbe la tête. Ce qu'il a entendu, c'est la voix de la conscience. Alors il s'élance de la maison avec la vitesse d'un fou, prend la première direction qui s'offre à sa stupeur et dévore les plaines rugueuses de la campagne. Mais le fantôme jaune ne le perd pas de vue et le poursuit avec une égale vitesse. Quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailées, ressemblant de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages et se dirigent d'une rame raide vers les cités des humains, avec la mission de les avertir de changer de conduite, le caillou à l'œil sombre voit deux êtres passer à la lueur de l'éclair, l'un derrière l'autre. Et essuyant une furtive larme de compassion qui coule de sa paupière glacée, il s'écrie « Certes, il le mérite, et ce n'est que justice !» Après avoir dit cela, il se replace dans son attitude farouche et continue de regarder, avec un tremblement nerveux, la chasse à l'homme et les grandes lèvres du vagin d'ombre, d'où découlent sans cesse, comme un fleuve, d'immenses spermatozoïdes ténébreux qui prennent leur essor dans l'éther lugubre, en cachant, avec le vaste déploiement de leurs ailes de chauve-souris, la nature entière et les légions solitaires de poulpes, devenues mornes à l'aspect de ces fulgurations sourdes et inexprimables. Mais pendant ce temps, le steeplechase continue entre les deux infatigables coureurs, et le fantôme lance par sa bouche des torrents de feu sur le dos calciné de l'antilope humaine. Si, dans l'accomplissement de ce devoir, il rencontre en chemin la pitié qui veut lui farer le passage, il cède avec répugnance à ses supplications et laisse l'homme s'échapper. Le fantôme fait claquer sa langue, comme pour se dire à lui-même qu'il va cesser la poursuite, et retourne vers son chenil jusqu'à nouvel ordre. Sa voix de condamné s'entend jusque dans les couches les plus lointaines de l'espace. Et lorsque son hurlement épouvantable pénètre dans le cœur humain, celui-ci préférait avoir, dit-on, la mort pour mère que le remords pour fils. Il enfonce la tête jusqu'aux épaules dans les complications terreuses d'un trou. Mais la conscience volatilise cette ruse d'autruche. L'excavation s'évapore, goutte d'éther. La lumière apparaît avec son cortège de rayons, comme un vol de courlis qui s'abat sur les lavandes. Et l'homme se retrouve en face de lui-même, les yeux ouverts et blêmes. Je l'ai vu se diriger du côté de la mer, monter sur un promontoire déchiqueté et battu par le sourcil de l'écume, et comme une flèche se précipiter dans les vagues. Et voici le miracle. Le cadavre reparaissait le lendemain sur la surface de l'océan qui reportait au rivage cette épave de chair. L'homme se dégageait du moule que son corps avait creusé dans le sable, exprimait l'eau de ses cheveux mouillés et reprenait, le front muet et penché, le chemin de la vie. La conscience juge sévèrement nos pensées et nos actes les plus secrets, et ne se trompe pas. Et comme elle est souvent impuissante à prévenir le mal, elle ne cesse de traquer l'homme comme un renard, surtout pendant l'obscurité. Des yeux vengeurs que la science ignorante appelle météores répandent une flamme livide, passent en roulant sur eux-mêmes et articulent des paroles de mystère qu'il comprend. Alors son chevet est broyé par les secousses de son corps, accablé sous le poids de l'insomnie, et il entend la sinistre respiration des rumeurs vagues de la nuit. L'ange du sommeil, lui-même mortellement atteint au front d'une pierre inconnue, abandonne sa tâche et remonte vers les cieux. « Eh bien, je me présente pour défendre l'homme cette fois. Moi, le contempteur de toutes les vertus, moi, celui qui n'a pas pu oublier le Créateur depuis le jour glorieux, ou renversant de leur socle les annales du ciel, ou par je ne sais quel tripotage infâme était consigné sa puissance et son éternité, j'appliquais mes 400 ventouses sur le dessous de mon aisselle et lui fit pousser des cris terribles. Ils se changèrent en vipères et, sentant par sa bouche, et allèrent se cacher dans les broussailles, les murailles en ruine, aux aguets le jour, aux aguets la nuit. Ses cris, devenus rampants et doués d'anneaux innombrables, avec une tête petite et aplatie, des yeux perfides, ont juré d'être en arrêt devant l'innocence humaine. Et quand celle-ci se promène dans les enchevêtrements des maquis, ou au revers des talus, ou sur les sables des dunes, elle ne tarde pas à changer d'idée. Si, cependant, il en est temps encore, car, des fois, l'homme aperçoit le poison s'introduire dans les veines de sa jambe par une morsure presque imperceptible avant qu'il ait eu le temps de rebousser chemin et de gagner le large. C'est ainsi que le Créateur, conservant un sang-froid admirable, jusque dans les souffrances les plus atroces, s'est retiré de leur propre sein des germes nuisibles aux habitants de la terre. Et quel ne fut pas son étonnement quand il vit Maldoror, changé en poulpe, avancer contre son corps ses 8 pattes monstrueuses, dont chacune lanière solide aurait pu embrasser facilement la circonférence d'une planète. Pris au dépourvu, il se débattit quelques instants contre cette étreinte visqueuse qui se resserrait de plus en plus. Je craignais quelques mauvais coups de sa part. Après m'être nourri abondamment des globules de ce sang sacré, je me détachais brusquement de son corps majestueux et je me cachais dans une caverne qui depuis lors resta ma demeure. Après des recherches infructueuses, il ne put m'y trouver. Oh, il y a longtemps de ça. Mais je crois que maintenant il sait où est ma demeure. Il se garde d'y rentrer. Nous vivons tous les deux comme deux monarques voisins qui connaissent leurs forces respectives, ne peuvent se vaincre l'un l'autre et sont fatigués des batailles inutiles du passé. Il me craint et je le crains. Chacun, sans être vaincu, a éprouvé les rudes coups de son adversaire et nous en restons là. Cependant, je suis prêt à recommencer la lutte quand il le voudra, mais qu'il n'attende pas quelque moment favorable à ses desseins cachés. Je me tiendrai toujours sur mes gardes en ayant l'œil sur lui, qu'il n'envoie plus sur la terre la conscience et ses tortures. J'ai enseigné aux armes les armes avec lesquelles on peut le combattre avec avantage. Ils ne sont pas encore familiarisés avec elles. Mais tu sais que pour moi, elle est comme la paille qu'emporte le vent. J'en fais autant de cas. Si je voulais profiter de l'occasion qui se présente de subtiliser ces discussions poétiques, j'ajouterais que je fais même plus de cas de la paille que de la conscience, car la paille est utile pour le bœuf qui la rumine, tandis que la conscience ne s'est montrée que ses griffes d'acier. Elles subirent un pénible échec le jour où elles se placèrent devant moi. Comme la conscience avait été envoyée par le Créateur, je crus convenable de ne pas me laisser barrer le passage par elle. Si elle s'était présentée avec la modestie et l'humilité propres à son rang, et dont elle n'aurait jamais dû se départir, je l'aurais écouté. Mais je n'aimais pas son orgueil. J'étendis une main et sous mes doigts broyai les griffes. Elles tombèrent en poussière sous la pression constante, croissante de ce mortier de nouvelle espèce. J'étendis l'autre main et les lui arrachai la tête. Je chassai ensuite hors de ma maison cette femme à coups de fouet. Je ne la revis plus. J'ai gardé sa tête en souvenir de ma victoire. Une tête à la main dont je rongeais le crâne, je me suis tenu sur un pied comme le héron au bord du précipice creusé dans les flancs de la montagne. On m'a vu descendre dans la vallée, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main dont je rongeais le crâne, j'ai nagé dans les gouffres les plus dangereux, longé les écueils mortels et plongé plus bas que les courants pour assister, comme un étranger, au combat des monstres marins. Je me suis écarté du rivage jusqu'à le perdre de ma vue perçante, et les crampes hideuses, avec leur magnétisme paralysant, rôdaient autour de mes membres qui tendaient les vagues avec des mouvements robustes sans oser approcher. On m'a vu revenir, sain et sauf, dans la plage, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main dont je rongeais le crâne, j'ai franchi les marches ascendantes d'une tour élevée. Je suis parvenu, les jambes lasses, sur la plateforme vertigineuse. J'ai regardé la campagne, la mer, j'ai regardé le soleil, le firmament. Repoussant du pied le granit qui ne recula pas, j'ai défié la mort et la vengeance divine par une huée suprême et me suis précipité comme un pavé dans la bouche de l'espace. Les hommes entendirent le choc douloureux et retentissant qui résulta de la rencontre du sol avec la tête de la conscience que j'avais abandonné dans ma chute. On me vit descendre avec la lenteur de l'oiseau, porté par un nuage invisible, et ramasser la tête pour la forcer à être témoin d'un triple crime que je devais commettre le jour même, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. Une tête à la main dont je rongeais le crâne, je me suis dirigé vers l'endroit où s'élèvent les poteaux qui soutiennent la guillotine. J'ai placé la grâce suave des coups de trois jeunes filles sous le couperet. Exécuteur des hautes œuvres, je lâchai le cordeau avec l'expérience apparente d'une vie entière. Et le fer triangulaire, s'abattant obliquement, trancha trois têtes qui me regardaient avec douceur. Je mis ensuite la mienne sous le rasoir pesant, et le bourreau prépara l'accomplissement de son devoir. Trois fois, le couperet redescendit entre les rainures avec une nouvelle vigueur. Trois fois, ma carcasse matérielle, surtout au siège du cou, fut remuée jusqu'à ses fondements, comme lorsqu'on se figure en rêve être écrasé par une maison qui s'effondre. Le peuple stupéfait me laissa passer pour m'écarter de la place funèbre. Il m'a vu ouvrir avec mes coudes ses flots ondulatoires et me remuer plein de vie, avançant devant moi, la tête droite, pendant que la peau de ma poitrine était immobile et calme comme le couvercle d'une tombe. J'avais dit que je voulais défendre l'homme cette fois. Mais je crains que mon apologie ne soit pas l'expression de la vérité, et par conséquent, je préfère me taire. C'est avec reconnaissance que l'humanité applaudira à cette mesure. Il est temps de serrer les freins à mon inspiration et de m'arrêter un instant en route, comme quand on regarde le vagin d'une femme. Il est bon d'examiner la carrière parcourue et de s'élancer ensuite les membres reposés d'un bond impétueux. Fournir une traite d'une seule haleine n'est pas facile, et les ailes se fatiguent beaucoup dans un vol élevé, sans espérance et sans remords. Non, nous ne conduisons pas plus profondément la meute hagarde des pioches et des fouilles à travers les mines explosives de ce champ impie. Le crocodile ne changera pas un mot au vomissement sorti de dessous son crâne. Tant pis si quelque ombre furtive, excitée par le but louable de venger l'humanité, injustement attaquée par moi, ouvre subrepticement la porte de ma chambre, en frôlant la muraille comme l'aile d'un goéland, et enfonce un poignard dans les côtes du pilleur d'épave céleste. Autant vaut que l'argile dissolve ses atomes de cette manière que d'une autre.